C'est l'hebdo du jeudi 17 janvier 2019. Au sommaire, le sommet Innovation MedTech, le rendez-vous annuel de l'industrie des technologies médicales au Canada, s'est tenu cette semaine à Laval. Près de 400 spécialistes réunis pour faire état des avancées, des innovations en santé. Quelles sont les nouveautés 2019? Quels sont les enjeux qui attendent ce secteur? C'est ce que nous révélera Émilie Aubry dans un reportage à découvrir dans quelques secondes. À suivre également l'analyse C'est Science de notre économiste Audrey Azoulay sur les investissements à venir dans la 5G. Et enfin, notre invité de la semaine, c'est Franck Béraud, président de Montréal In Vivo, la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé du Grand Montréal. Nous allons évidemment revenir avec lui sur les principaux enseignements du sommet Innovation MedTech 2019. Au micro, Philippe Regnoux, c'est l'hebdo, c'est maintenant. À la une de ce jeudi 17 janvier 2019, le sommet Innovation MedTech. Salut Émilie.
Bonjour Philippe.
Alors tu t'es rendu à Laval en début de semaine pour prendre le pouls des innovations santé en ce début d'année. Alors question docteur, le secteur est-il en forme?
Son personnel l'est en tout cas, ça c'est certain, puisque ce lundi à la salle André Mathieu étaient rassemblés près de 400 travailleurs du domaine de la santé œuvrant à la fois dans les secteurs académiques et industriels, que ce soit en entreprise, université et centre de soins. Tous s'étaient donné rendez-vous pour découvrir les innovations technologiques qui allaient faire partie intégrante de la médecine de demain. C'est d'ailleurs une grande première que cette réunion se tienne à l'échelle nationale. C'est pourquoi le Forum québécois MedTech, qui existait depuis 6 ans, a pris le titre de sommet pour sa 7e édition. Étaient donc sur place des gens provenant entre autres du Canada, des États-Unis, de l'Israël et de la France. Une rencontre internationale qui faisait la fierté de sa présidente, Diane Côté, qui nous a parlé de l'importance que le Québec établisse des partenariats avec d'autres équipes à travers le monde.
On est un écosystème extrêmement collaboratif au Québec et c'est vraiment une signature, ça nous distingue. Mais il y a tellement d'expertise et de centres d'excellence dans toutes sortes de domaines cliniques et académiques à travers le Canada. Puis on voit avec les conférenciers aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient. Je pense que justement, si l'esprit de collaboration rayonne, ben là, on va pouvoir apprendre chacun de l'autre. Et c'est comme ça qu'on va être beaucoup plus fort pour aller chercher le futur qui devrait nous revenir.
Alors, on vient d'entendre la présidente, donc directrice générale de MedTech, Diane Côté. Mobilisation, sa vision semble résumer le nouveau programme qui a été lancé dans le cadre du sommet.
En effet, parce que le consortium MedTech, Philippe, souhaite depuis sa création développer une plateforme de réflexion et de création pour mener à une coopération en transfert technologique entre des partenaires publics et privés. À ce besoin répond le nouveau programme Tête de pont qui fera appel aux patients pour exprimer leurs besoins afin d'influencer le développement de solutions innovantes. Pour nous expliquer le concept, on écoute Carole Jabet du CHUM.
Mais c'est vraiment favoriser un maillage entre des établissements, des experts terrain et des entreprises qui, elles, sont des fournisseurs d'innovation pour qu'ensemble, on soit capable de bénéficier des avantages que ces innovations-là amènent dans des secteurs bien spécifiques d'expertise. Je pense que c'est aussi ce qui fait une différence. On le fait pas partout, on le fait là où on est bon.
Autant les patients auront désormais un nouveau rôle à prendre, autant les professionnels médicaux en enseignement et recherche devront assister à une transformation de leur façon de faire et d'être. Suite au développement de nouvelles technologies novatrices, il y a matière à se pencher sur la façon dont les travailleurs de la santé devront adapter leurs pratiques de travail. Un sujet qui a fait réagir le directeur général du CHUM, M. Fabrice Brunet.
Écoutez, c'est la question qui a été pour moi la plus importante dans les 3 dernières années. On est dans ce qu'on appelle l'intelligence augmentée. À un moment, il va y avoir l'intelligence transformationnelle. Et puis, il y a aussi un moment, peut-être, où la machine remplacera l'homme. Mais on n'y est pas pour l'instant. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce qu'on doit garder en tête, c'est comment transformer nos façons de faire, nos façons d'être, nos savoirs. Mais également, comment s'assurer que c'est pour le bénéfice de l'homme.
Monsieur Brunet soulignait l'apport que pourra avoir en ce sens la nouvelle école d'intelligence artificielle en santé du CHUM.
Alors, des investissements dans le domaine de la santé ont également été annoncés lors de ce sommet MedTech. Des investissements à l'échelle du Canada. Comment ces fonds vont-ils être répartis, Émilie?
Bonne nouvelle en ce sens, MedTech a mis sur pied des programmes de prêts et bourses qui offriront un support à différentes compagnies. L'un des dispositifs subventionnés servira à corriger la scoliose. Un appareil sera également encouragé à 100%. Celui-ci servira à mieux établir le seuil de sévérité de l'asthme chez les jeunes enfants. Pour aller vers l'innovation, MedTech mise sur les trois mots d'ordre suivants, mobilisation, collaboration et impact. Ces termes ont été appliqués dans le cadre de ce rendez-vous annuel et c'est une excellente nouvelle pour l'industrie des sciences et de la vie qui poursuit ses avancées.
Allez, trois mots clés, on les retient. Mobilisation, coopération et impact.
Effectivement.
C'est ça. Et voilà, on a retenu un sujet sur lequel on va évidemment revenir dans quelques instants avec notre invité de la semaine, Franck Béraud, PDG de Montréal InVivo. Merci, Émilie.
Merci, Philippe.
Salut Audrey.
Bonjour Philippe.
Alors de retour de vacances, bien méritées, bien bronzées aussi hein, d'ailleurs.
On voit que ça.
Tu en as entre autres profité pour suivre de près, même si tu n'étais pas à Las Vegas, le CES 2019, la grande messe des nouvelles technologies. Si ce CES n'a pas été riche en grandes nouveautés, c'est l'intégration des nouvelles technologies qui a fait parler d'elle, et en particulier la 5G qui était en vedette.
Oui Philippe, parce qu'on dit de l'année 2019 qu'elle sera pivot pour le 5G, ce réseau mobile de cinquième génération et de toutes les promesses en termes de connectivité et de mobilité. Alors entre le 4 et le 5G, c'est un passage qui requiert des investissements en infrastructures complètement renouvelés et particulièrement massifs, parce que derrière la magie d'une vitesse augmentée par 100, c'est aussi l'installation complexe d'un réseau d'antennes très dense. Alors, comme dirait l'autre, tout le monde parle du 5G, mais personne ne le voit parce que, effectivement, il y a encore des conditions instables, trop incertaines, pour entrer dans un cycle d'investissement qui résulte en un vrai déploiement. On l'a récemment vu avec les débats sur Huawei, on n'est pas sûr de savoir à qui confier encore l'installation des équipements. C'est surtout l'enjeu de la sécurité qui a fait les manchettes, mais plus largement, c'est toute une liste de standards qui sont encore loin d'être fixés. Les ingénieurs restent encore aujourd'hui face à des problématiques techniques loin d'être résolues. Pensons à la voiture autonome, avant que cela devienne une réalité commercialisée, on va préférer une technologie impeccable aux interconnexions hyper bien ficelées et des interfaces bien pensées entre les infrastructures et les applications. Alors on parle d'une commercialisation du réseau mobile 5G dès 2020, mais notons que les premières prévisions statuent sur un taux de connexion au 5G de seulement 13% en 2023. Le 4G va donc rester prédominant encore pendant quelques années, le temps que la R&D et l'innovation fassent leur œuvre. C'est d'ailleurs le rôle de Encore, ce premier grand projet canadien d'innovation ouverte annoncé l'automne dernier et soutenu à hauteur de 400 millions de dollars par le gouvernement fédéral de Québec et l'Ontario. Les entrepreneurs technologiques sont invités, l'appel est lancé, à partager leur idée pour une appropriation, c'est le terme utilisé et ce n'est pas pour rien, une appropriation des technologies du 5G.
Le fameux corridor Québec-Ontario. L'enjeu, Audrey, ne semble pas lié uniquement à la technologie proprement dite, mais à sa gouvernance. Le CES a d'ailleurs consacré une partie de sa programmation cette année au thème de la résilience, autrement dit, comment résister dans un monde hyper connecté.
C'est effectivement important de philosopher un peu sur ce genre de questions, car le 5G va bel et bien s'imposer à la société avec une circulation à grande vitesse de données massives. On vous laisse imaginer ce que ça implique. Le 4G va finir par saturer, même si sa fin n'est pas encore très bien datée. Et du concept, le concept hein, de l'Internet des objets est déjà dépassé. On parle de l'Internet of Everything et les chercheurs se penchent déjà sur le 6G. Alors cela dit, l'investissement du 5G n'a pas encore trouvé son timing, je dirais. À court terme, le 5G coûte encore trop cher par utilisateur, qui lui ne paiera pas plus cher pour une mobilité acquise et aux conditions qui peut être encore jugée satisfaisante. Alors faisons donc la somme, une instabilité technologique, des enjeux de sécurité, quelques doutes sur le plan sanitaire et sur la consommation d'énergie, un beau chantier aussi pour ajuster les règles de droit, pour assurer les risques et un modèle économique pas tout à fait calibré. Bref, les technologies avancent, mais la mathématique du tout ultra connecté n'est pas encore posé. Le 5G, c'est encore beaucoup de déclarations. Il reste du travail pour passer la ligne du progrès. N'y allons pas trop doucement cependant, mais on peut y aller calmement, d'autant plus que le Canada dispose d'atouts certains. C'est anecdotique mais intéressant. Selon le Speed Test Global Index, le Canada est au 4e rang pour le mobile. Une très bonne place, c'est à vérifier. Mais c'est peut-être parce que dans l'histoire des technologies mobiles, le leadership canadien a déjà su laisser quelques jolies marques.
Et à titre de comparaison d'ailleurs, Audrey, les États-Unis, selon ce même indice, est à la 41e place. On peut donc se péter les bretelles au Canada, hein, ouais, un petit peu, autant dire qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, surtout en matière de guerre commerciale. Et concrètement, si on t'a bien compris, Audrey, la 5G, toi tu dis le 5G, moi je dis la 5G, hein, c'est bon, on peut, voilà. Dans les téléphones des Québécois, c'est prévu pour quand, si on te comprend bien, c'est dans un an, c'est ça?
C'est ce qu'ils disent.
Allez, 2020, on y croit. Merci Audrey, on fait une rapide pause musicale avec Disco Magique Concorde. Allez, un bon français que je dis ça, j'ai bien prononcé ça.
Oh, wow.
C'est l'impératrice comme artiste. Puis on revient juste après avec notre invité de la semaine, Franck Béraud, PDG de Montréal In Vivo. À tout de suite. De notre invité et cette semaine, Audrey, on reçoit Franck Béraud.
Monsieur Béraud cumule 25 ans d'expérience en développement des affaires et en transfert technologique dans les domaines des sciences de la vie et du diagnostic clinique. Il est devenu le PDG de Montréal In Vivo en 2015.
Franck Béraud, bonjour.
Bonjour.
The best is yet to come. C'est un tweet. C'est pas Donald Trump, c'est Montréal In Vivo qui a tweeté cela lundi dernier lors du sommet de l'innovation MedTech.
J'avoue, c'est moi.
The best is yet to come. Le meilleur est à venir. Le meilleur, c'est quoi?
C'est tous les développements, les applications en fait des technologies médicales au bénéfice des patients et des professionnels de la santé. Donc il y a énormément de développements qui se font actuellement et qui vont se transformer en innovations qui vont se rendre, je veux dire, au niveau commercial. Donc ça c'est très excitant. Des consortiums comme MedTech œuvrent énormément justement pour arriver à faciliter la mise en marché de ces technologies-là.
C'est ce que vous retenez essentiellement de ce sommet de l'innovation MedTech?
Ça, c'est les trois mots que...
Collaboration, coopération, impact, hein, voilà, c'est rentré dans les têtes. Montréal In Vivo, on le rappelle, c'est la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé du Grand Montréal. On parle souvent de Montréal, ville de l'intelligence artificielle, ville du jeu vidéo, ville des effets visuels. Est-ce qu'on peut dire aussi que Montréal compte comme un des pôles mondiaux dans les sciences de la vie aujourd'hui?
Définitivement, c'est peut-être moins connu du grand public que les autres secteurs que vous avez mentionnés, mais clairement, oui, Montréal et le Québec, mais Montréal en particulier, se classe très très bien, notamment en Amérique du Nord, en termes de taille, en termes d'intensité de ce qui se fait en recherche et en développement et en commercialisation en sciences de la vie et technologie de la santé. Donc oui, tout à fait. Quand on parle de sciences de la vie au Canada, on parle forcément de Montréal.
Mais vous voyez bien aussi où je veux en venir, hein, parce qu'il y a en 2017, donc il y a deux ans, vous aviez ce rêve, ce vœu que vous aviez formulé, qui n'a pas été exaucé par le ministre de l'Innovation à l'époque, c'était d'avoir une super grappe des sciences de la vie au Canada. Il y en a eu 5 super grappes qui ont été créées, il n'y avait pas celle des sciences de la vie. Est-ce qu'on peut imaginer que ce rêve, il n'est pas totalement enfoui? Est-ce qu'il y a des perspectives pour cette super grappe?
Ben, tout à fait, parce que effectivement, au niveau fédéral, le concours des super grappes n'a pas récompensé en quelque sorte une super grappe en sciences de la vie au Canada. Par contre, le fédéral a quand même, mis en place un fonds stratégique d'innovation, son volet 4 notamment, et qui est 100% dédié au secteur des sciences de la vie, puisqu'on parle de médecine de précision, on parle de données de santé, ce genre de choses là. Donc je pense qu'on va avoir l'annonce très très bientôt, là, d'ici quelques semaines, peut-être d'une couple de mois, de qui est le gagnant, qui est le consortium qui va remporter cette
compétition. Allez, on y croit.
Oui. Mais il y a aussi les politiques fédérales. Actuellement, il y a eu toute la table stratégie économique du fédéral en sciences de la vie, pardon, et dont le rapport a été déposé au ministre Baines. Et nous, on a quand même grand espoir et j'avoue qu'on fait quand même des pressions pour s'assurer que les recommandations qui sont dans ce rapport, qui ont été accueillies de façon très, très, très positive par le secteur et par l'industrie, se retrouvent dès le prochain budget de M. Morneau. Donc, c'est quelque chose sur lequel on veut absolument travailler dans les jours et semaines à venir.
Alors justement, dans un billet que vous avez publié sur le site web d'InVivo, Vous parlez d'un cycle budgétaire à ne pas rater. Alors, mm-hmm. pour votre secteur, justement, c'est l'urgence, et sur quelle priorité?
Ben, l'urgence, l'urgence, pour être tout à fait honnête, c'est que l'urgence, c'est qu'il y a des élections qui s'en viennent. Donc, je pense que c'est le moment pour essayer de faire des gains au niveau du budget fédéral. Maintenant, ce qu'on demande et ce qui ressort de du rapport qu'on appelle age-based, là, il y a plusieurs choses, mais cette notion de vouloir créer des compagnies d'ancrage au Canada, et puis nous, évidemment, on voudrait qu'elles soient ici à Montréal, hein, donc des grandes compagnies qui, en sciences de la vie, qui puissent être non seulement bonnes au Canada, mais qui puissent être également des leaders au niveau Amérique du Nord et international. Bon, ben, c'est sûr que cette recommandation-là, pour nous, elle est très, très importante. Ça fait partie vraiment des ambitions que l'on a ici à Montréal et au Québec. Donc, on rejoint tout à fait ça. Maintenant, pour répondre plus complètement à votre question, il y a aussi toute la question de comment est-ce qu'on fait ça, quelles sont les conditions gagnantes finalement pour arriver à obtenir ce succès-là. Donc, il y a un certain nombre de choses au niveau, par exemple, fiscal, au niveau de l'encouragement des entreprises, au niveau réglementaire, par exemple, qu'il faut s'assurer qu'on ait ça en main et que tout soit bien en place pour qu'on crée les conditions gagnantes pour le succès de ces entreprises-là.
Montréal occupe en Amérique du Nord le 10e rang des régions métropolitaines actives en sciences de la vie, occupe même, je crois, le premier rang au niveau des coûts d'exploitation, coûts d'opération. Qu'est-ce qui explique cette place, enviable? Est-ce que c'est le contexte de financement, on vient de l'évoquer, le contexte fiscal, les talents qui sont présents ici sur le bassin, c'est quoi?
C'est beaucoup de choses, mais je pense qu'en premier lieu, c'est la recherche, l'excellence de la recherche que l'on a à Montréal et au Québec. Je pense que c'est très clairement la raison pour laquelle toutes ces entreprises naissent, toutes ces entreprises viennent s'installer à Montréal, c'est parce qu'il y a du talent, parce qu'il y a une très très grande qualité de recherche, ça c'est reconnu, c'est connu et reconnu. Donc je pense que
c'est l'ingrédient numéro un.
C'est l'ingrédient numéro un. Après, effectivement, il y a toutes sortes d'autres ingrédients importants. Par exemple, des politiques publiques qui sont favorables. Je regarde au niveau du gouvernement provincial, on a depuis mai 2017 une stratégie québécoise des sciences de la vie qui a été un gros coup de boost pour le secteur, qui a créé vraiment un momentum qui fait que tout le monde a embarqué dans les objectifs et dans les ambitions de cette stratégie-là, qui vise justement de passer du 10e rang au 5e, donc en Amérique du Nord, en 10 ans. Donc je pense que c'est très ambitieux, c'est très... mais en même temps,
c'est faisable,
tout à fait.
Justement, dans la stratégie dont vous parlez, il y a un objectif chiffré, 4 milliards d'investissements d'ici à 2022. Il nous reste à peu près 3 ans. Est-ce que vous pensez qu'on a pris assez d'élan pour atteindre l'objectif?
J'ai pas de données exactes sur ça, mais ça se compare à 3,5 milliards sur les 5 ans précédents. Donc, c'est une augmentation de 500 millions, finalement, sur une même période. Je dirais comme ça... Je pense qu'on est quand même bien parti parce que je vois la création d'entreprises, je vois le financement des nouvelles entreprises. On parle de rondes de financement de plus en plus importantes maintenant pour des entreprises, soit en démarrage ou soit qui se continuent. Donc, j'ai pas les données statistiques pour ça, mais je dirais que oui, je suis assez confiant par rapport à ça.
Vous avez signé la semaine dernière, Montréal In Vivo, la déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle responsable. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous? Dans votre domaine, dans votre groupe?
Pour l'organisation Montréal In Vivo, je pense que c'est de dire, c'est important que les bottines suivent les babines, comme on dit. On anime un chantier, un comité de travail sur l'intelligence artificielle, et puis toutes les questions de intelligence artificielle responsable ont surgi comme parmi d'autres. Donc c'est la moindre des choses qu'on pouvait faire, c'est en tant qu'organisation signer cette déclaration-là et surtout encourager toutes les organisations et tous les membres de la GRAP à faire la même chose. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle va changer dans notre secteur? Bah, écoutez, c'est simple. Je le dis souvent, mais l'intelligence artificielle a énormément de potentiel si on regarde, par exemple, différents secteurs comme le retail, comme l'industrie financière. Mais on s'entend que améliorer votre expérience de consommateur dans une boutique ou vous vendre des meilleurs produits financiers, ça va pas changer votre vie dramatiquement. Par contre, avoir des outils d'intelligence artificielle et des applications qui vont vous permettre d'avoir des meilleurs diagnostics, un traitement plus efficace, mieux ciblé, là, ça va changer votre vie. Donc, c'est pour ça que l'intelligence artificielle, c'est à mon avis le secteur dans lequel le potentiel va le secteur de la santé est celui dans lequel le potentiel du AI va se réaliser le plus.
Montréal In Vivo a mis en place avec l'Université de Montréal et Concordia un programme, c'est le programme de développement de l'entrepreneuriat en sciences de la vie.
Oui.
Alors il s'agit, on le comprend, de commercialiser les savoirs, valoriser les talents, probablement le premier levier de croissance pour votre secteur. Une nouvelle cohorte devrait être constituée en hiver 2019 et on est curieux, est-ce que déjà dans les premiers candidats vous avez voyé des tendances intéressantes là, en termes d'innovation ?
Alors, la prochaine cohorte va débuter en février, dans quelques semaines. Et la tendance de cette cohorte-là va être beaucoup plus technologie médicale, alors que la première était un petit peu plus biotechnologie, on va dire découverte du médicament. Tout simplement parce qu'on a fait un partenariat pour la deuxième cohorte avec l'Institut TransmedTech et puis Polytechnique pour avoir plus d'étudiants qui viennent de ce secteur-là. Donc, c'est une façon pour nous d'avoir une bonne représentativité de l'ensemble de notre écosystème, qui est aussi bien le côté médicaments que le côté technologie médicale. Donc ça va être, je pense, la couleur un petit peu différente cette année, mais le programme en tant que tel, les modules sont les mêmes, la dynamique va être la même, donc je pense qu'on va avoir encore une bonne vingtaine d'étudiants très 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 bien formés maintenant au défi de l'entrepreneuriat suite à cette deuxième cohorte.
Il y a 56 000 emplois directs qui sont occupés en sciences de la vie et technologie de la santé au Québec.
Dont 80% à Montréal.
Exactement. On va y venir sur cette histoire de Montréal et les régions. Moi, la première question, c'est que on parle de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que vous la vivez dans votre secteur?
On la vit pas de la même façon que d'autres secteurs, comme je pense à l'aéronautique ou technologie de l'information en tant que telle. On est en train de finaliser une étude, justement, adéquation entre, en quelque sorte, l'offre et la demande, si vous voulez, donc la formation et puis les emplois. Et on arrive à un équilibre, à peu près, on va dire, un équilibre un peu fragile, un peu précaire. Donc, c'est sûr qu'il y a certains types de professions dans lesquelles c'est difficile de trouver des candidats.
Des ressources, oui.
Je sais pas moi, un PhD en chimie, ben, c'est pas évident d'en trouver à Montréal en ce moment. Mais il y a d'autres types de professions pour lesquelles il n'y a pas de pénurie. Donc, au global, c'est à peu près à l'équilibre.
Vous évoquez 80% donc de ces emplois sont dans le Grand Montréal, 45 000 dans l'industrie, 11 000 dans les centres de recherche publique. La pénurie d'emplois, quand on en parle, elle est surtout vécue en région. Est-ce que vous seriez prêt, favorable à une politique qui en donnerait peut-être un peu moins à Montréal, un peu plus en région, pour équilibrer éventuellement ce qui est vécu justement hors Montréal? On sait qu'il y a des centres d'excellence. Bon, est-ce que vous seriez prêt à ce que gouvernement actuel, on va soit prêt à justement à faire cette démarche-là?
Je me prononcerai pas là-dessus parce qu'en fait, le facteur le plus important, c'est où sont les emplois, c'est où sont les entreprises qui vont créer ces emplois-là. Puis, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais si tu dois lancer une entreprise, il y a de grandes chances qu'on veuille s'installer proche des chercheurs, proche des infrastructures, proche des collaborateurs potentiels. Et ça, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais ça se fait généralement dans les grands centres urbains. Donc, les entreprises vont venir là où elles pensent que c'est le plus favorable pour elles, et donc les emplois vont se créer dans ces centres-là.
Donc, si je suis bien la logique, Franck Béraud, c'est que cette dynamique-là qu'on vit à Montréal, elle doit finalement émailler dans le reste des régions, dans ces fameux créneaux d'excellence. Est-ce que c'est un maillage qui va se faire naturellement? Si on vous entend, c'est ça qui va se passer, finalement.
Ben, je pense que c'est ça, c'est la loi du marché finalement. Ouais. Les entreprises vont aller là où c'est le plus favorable pour elles, et puis en bout de ligne, c'est là où vont se créer les emplois.
Dernière question, le Québec offre actuellement un des climats d'investissement les plus favorables en Amérique du Nord, on le rappelle, pour l'exploitation des sciences de la vie, vous l'avez très clairement indiqué. Est-ce que cette situation, fort enviable, est amenée à perdurer?
Ben, je le pense, je l'espère en tout cas. On est très chanceux en ce moment, moi je le dis beaucoup en ce moment, c'est vraiment le meilleur moment pour être dans le secteur des sciences de la vie depuis longtemps au Québec. C'est sûr qu'il y a toujours cette dualité entre la province de Québec et le fédéral. Il y a toujours des arrimages qui doivent être faits pour que ça soit encore plus efficace. Mais aussi bien le gouvernement du Québec que le gouvernement fédéral ont clairement indiqué que le secteur des sciences de la vie est un secteur prioritaire, un secteur de pointe et de l'économie du savoir. Donc je vois vraiment pas ça baisser dans les années à venir.
Merci Franck Béraud. Je rappelle, vous êtes PDG de Montréal In Vivo, la GRAP des sciences de la vie et des technologies de la santé du Grand Montréal. Merci d'être venu au plateau de Célèbre.
Ça fait plaisir, merci.
T'es perdu dans la foule, des milliers d'autres comme toi.
Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur ces quelques notes de Kamikaze. C'est signé Patrice Michaud. C'est le choix de Eve, c'est ça ? Eve qui nous a, voilà, nous envoie sur les Kamikazes, tout simplement. Il n'y a rien à dire de plus, c'était ça qu'il fallait dire. C'est notre recommandation pour vos travaux de recherche en labo. Merci Émilie, merci Audrey, merci encore une fois Franck Béraud d'avoir été des nôtres cette semaine à la réalisation technique Enchi Chedumbia et toute l'équipe de GTS, à la recherche Émilie Laurenceau et à la coordination plateau Eve Jasmin, Philippe Regnault au micro, c'est l'hebdo. C'est fini pour cette semaine. Rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, excellente fin de semaine à tous.